Vous écoutez
RMC.
Ce soir, Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Oh, c'est ta soirée.
Salut,
c'est ta soirée souvenir.
Oh, c'est beau.
Oh là 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 là.
Est-ce que t'habitais déjà à Londres cette année-là?
J'arrive cette saison-là, j'arrive lors de la saison 2003-2004, donc j'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance de pouvoir faire partie de cette aventure dans un sens et de suivre tous les matchs à domicile, à l'extérieur quasiment, à l'époque pour le Parisien, mais j'ai eu beaucoup de chance d'arriver effectivement lors de cette.
Ah, t'as fait tous les matchs à l'extérieur aussi?
La plupart, pas tous, mais la plupart, ouais.
C'est sûrement pas un hasard quand même. L'année où tu débarques et
les invincibles arrivent.
Les mecs ont voulu te faire plaisir. J'y crois pas, moi.
Bon, alors évidemment, là, les fans d'Arsenal, vous allez vous régaler, puisqu'on va vous raconter l'année des invincibles.
Ça fait longtemps qu'ils se régalent plus, donc.
Oui, c'est vrai que là, c'était la grande année. Alors, Julien, on va te laisser dérouler ton récit. Donc, pour les plus jeunes, hein, une année où Arsenal, en gros, n'a pas perdu. Ce qui, évidemment, dans le monde du foot, est totalement exceptionnel.
Tout à fait. On va remonter un tout petit peu avant la saison 2003-2004. À la fin de la saison 2001-2002, au mois de mai 2002, cette saison-là, Arsenal est invaincu à l'extérieur. Donc 19 matchs à l'extérieur, aucune défaite. C'est vraiment les prémices de cette saison magnifique. D'ailleurs, au point qu'Arsène Wenger pense que la saison qui suit, donc 2002-2003, sera peut-être la saison où justement il pourrait la terminer sans aucune défaite à domicile et à l'extérieur. Ils avaient malheureusement perdu quelques matchs à domicile lors de la saison où ils sont invaincus à l'extérieur. Et en fait, Wenger s'est trompé d'une saison. Il avait vu une saison trop tôt. Ce sera pas en 2002-2003, mais ce sera en 2003-2004, donc la fameuse saison invincible. Une saison à 26 victoires et 12 défaites et 12 matchs nuls, pardon. Alors effectivement, 12 matchs nuls, ça peut paraître beaucoup dans une saison, mais dans une saison de Premier League, surtout à cette époque-là où tu avais quand même une grande équipe de Manchester United, une grande équipe de Liverpool avec encore Steven Gerrard par exemple, une équipe de Chelsea qui avait déjà récupéré une partie de l'argent d'Abramovich, puisqu'il avait c'est à ce moment-là sa première saison à la tête du club de Chelsea. Il avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour Claudio Ranieri. C'est la saison avant celle de Mourinho, la première de Mourinho. Donc c'est une saison de Premier League assez compétitive avec beaucoup de grosses équipes quand même, de gros joueurs, et c'est vrai, c'est une saison exceptionnelle à tout point de vue. On va commencer déjà par l'équipe type. Jens Lehmann, c'est une belle équipe. Hein. T'as Jens Lehmann dans les buts, c'est sa première saison. Il arrive cet été-là, il arrive à l'été 2003. T'as en défense Loren, le Camerounais à droite, Saul Campbell, l'international anglais, et Kolo Touré, un jeune Kolo Touré en défense centrale, et Ashley Cole, l'international anglais à gauche. Le milieu à quatre avec Freddy Ljungberg à droite, Patrick Vieira et Gilberto Silva dans l'axe, et Robert Pires sur le côté gauche avec après Denis Bergkamp et Thierry Henry en pointe.
Gilberto Silva.
C'est vrai que c'est une équipe qui...
C'est la seule année où j'ai été à la mode, moi.
Gilberto Silva. Et surtout le côté gauche Ashley Cole, Robert Pires, c'est peut-être le meilleur côté gauche de l'histoire de la Première Ligue, jusqu'à Mané et Robertson aujourd'hui, mais sinon c'était quasiment intouchable. Et le pire, c'est que tu savais que c'était par là que la plupart
non, j'aurais mis dans
t'aurais
ma poche,
peut-être hein. pu rivaliser avec le duo Cole Pires, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Sur le banc, t'avais encore par exemple Canou, t'avais José Antonio Reyes qui arrive au mois de janvier
Canou,
2004.
Canou, il est un peu en train de course là.
Oui, ouais, il a pas fait course. D'ailleurs, il joue pas beaucoup, mais il est important dans les matchs qu'il faut. Il est important dans les matchs qu'il faut. T'as la vieille garde aussi, Parlor et Kion, qui sont encore là pour l'état d'esprit, pour le côté plutôt anglais dans le vestiaire, on lâche rien, etc., etc.
Les vieux de l'époque du Boring Arsenal.
Exactement. C'est aussi l'héritage des années George Graham, où tu jouais très défensif, tout ça. Et c'est vrai que t'avais besoin aussi, je pense, de ce côté-là, de ce côté très anglais ou anglo-anglais avec les autres plutôt européens dans le vestiaire. Mais c'est vrai que autant sur le banc que sur le terrain, t'as beaucoup de qualités. T'as Arsène Wenger qui laisse aussi beaucoup de responsabilités aux joueurs, et notamment à Patrick Vieira et Denis Bergkamp et Thierry Henry, bien sûr. Mais Vieira et Bergkamp, c'est vraiment les deux gros tauliers du vestiaire. C'est eux qui gèrent ce vestiaire, et Arsène finalement n'a pas grand chose à faire entre guillemets pendant cette saison-là. Mais c'est une saison aussi qui aurait pu tourner très très différemment, parce que lors de la sixième journée, ils vont à Manchester United, à Old Trafford, United qui vient d'être champion d'Angleterre, donc c'est les derniers à avoir été champion d'Angleterre. On est vraiment au cœur de la rivalité Ferguson-Wenger, Manchester United-Arsenal. C'est le très gros match, c'est l'affiche de la saison, surtout à Old Trafford, puisque à l'époque c'était encore à Highbury les matchs d'Arsenal, t'avais que 38 000 personnes. Là, c'est vraiment la grosse affiche.
C'était bien mieux,
t'as raison, mais c'est vrai que c'était plus petit, c'était une ambiance différente. Là, à Old Trafford, c'est la grosse machine, et tu fais 0-0, tu entres dans les arrêts de jeu, et là, penalty pour Manchester United, à domicile. Et tout le monde se dit, jusque là, ils avaient fait donc un sans faute, 5 matchs, 5 victoires. C'est là, ils avaient fait 4 matchs, 4 victoires et un match nul, le match d'avant, sur la pelouse, je crois, de Newcastle. Et donc là, t'arrives, Ruud van Nistelrooy, à l'occasion, donc, de marquer le but vainqueur pour Manchester United.
C'est le fameux pénalty contesté qui se termine en bagarre après, là.
Voilà, exactement. Il tire sur la transversale et là, Keown, voilà, c'est ça. Il fracasse la barre et ensuite Keown lui saute dessus en lui mettant un coup de coude en retombant. C'est l'animosité incroyable. Et là, les joueurs te le racontent. Là, ils ont su qu'ils avaient la baraka et qu'à partir de là, ça allait vraiment être difficile de leur arriver quelque chose et de les battre. Et après, il s'ensuit une saison exceptionnelle avec un Thierry Henry qui marche sur l'eau. Il marque 39 buts, toutes compétitions confondues cette saison-là, dont 30 en championnat. Il y a un moment il y a 2 matchs à domicile, 1 contre Liverpool, il met un triplé, Arsenal gagne 4-2, et ensuite 1 contre Leeds United. Donc on est en fin de saison, on est le 9 avril et le 16 avril, donc en 7 jours, il marque un triplé contre Liverpool à Highbury, un quadruplé contre Leeds à Highbury aussi. Il était intouchable. Moi je l'ai vu faire des matchs cette saison-là où sincèrement, c'était personne ne pouvait se rapprocher de lui, personne ne pouvait lui prendre le ballon, chaque occasion c'était un but, il était vraiment exceptionnel. Et donc c'est une saison où il finit à 30 buts en première ligue, 39 buts toutes compétitions confondues, et donc il termine à domicile contre Leicester City, ils sont champions quelques semaines plus tôt à Tottenham, en plus chez l'ennemi, chez l'ennemi juré, le rival absolu, où ils font 2-2 alors qu'ils mènent 2-0, ils sont tranquilles, ils se font rattraper en fin de match, mais le 2-2 ça suffit, donc ils sont champions d'Angleterre officiellement à White Hart Lane. S'ensuit ensuite un match à Birmingham, contre Birmingham, ils font 0-0, ils sont plutôt tranquilles. À Portsmouth, c'est un peu plus chaud, ils font 1-1, ils s'en sortent plutôt bien, mais ils auraient pu perdre ce match-là. Ensuite, ils gagnent contre Fulham, et le dernier match à Highbury contre Leicester. Tout le monde se dit, bon, c'est tranquille, Leicester City, c'est tranquille, ils vont gagner, ils vont faire toute la saison invaincus. Ils sont menés au score dans ce match-là, à la surprise générale. Ils arrivent à revenir grâce à Henry, d'abord sur penalty, ensuite un but de Patrick Vieira avec une passe somptueuse de Dennis Bergkamp dans l'espace, dans le dos de tout le monde. Et Vieira vient marquer, et donc ils finissent le dernier match à domicile en gagnant. Et donc ils finissent cette saison 26 victoires et 12 matchs nuls pour faire cette saison invaincue.
Et bon, Jules, Wiltord, il est encore là aussi?
Ouais, il est là. Ouais,
oui, Wiltord aussi, bien sûr, pardon, j'ai oublié de.
Non,
parce qu'on l'a pas cité.
Il y avait un effectif qui était.
Le point noir, en fait, je me souviens bien moi de cette année-là, parce que c'est notre année de la Ligue des Champions là.
Oui.
Et ils se font sortir donc contre Chelsea, qu'on va jouer nous après en demi-finale. T'es d'accord avec moi, c'est quand même le point noir de cette saison quand même.
Tout à fait, c'est ça, parce que je pense sincèrement qu'ils avaient le niveau pour peut-être pas pour ton Monaco, mais ils auraient pu aller au bout, si tu veux, dans cette Ligue des Champions, il y a aucun doute là-dessus. C'était, je pense qu'ils se sont trop vus après la victoire au match aller à Chelsea, avant le retour à Highbury, ils ont pensé dans la forme dans laquelle ils étaient que ça allait passer plutôt tranquillement, et ils prennent un but en fin de match de Wenbridge, sur une erreur de Jens Lehmann, qui effectivement donne la victoire 2-1 à Chelsea, qui passe donc à la sur le nombre de buts à l'extérieur, et qui ensuite vous affronte effectivement.
Et en cup, ils font quoi?
Finale, mais c'était une équipe. En cup, ils perdent en League Cup contre. Alors Wenger avait mis plutôt des jeunes. T'avais Gaël Clichy par exemple dans cette équipe aussi là. Ils perdent contre Middlesbrough. Qui va ensuite gagner la Coupe de la Ligue, ouais. contre Manchester United, ils perdent en demi-finale de la Coupe d'Angleterre.
D'accord.
Contre le Manchester United, donc de Cristiano, etc. Sur la pelouse d'Aston Villa, ils perdent, c'est un match où ils sont pas bons. C'est un des rares matchs où ils sont pas bons cette saison-là. Mais effectivement, ils auraient pu faire un triplé aussi historique. Ils l'ont pas fait, ça se joue à pas grand chose en coupe ou en Ligue des Champions, mais en championnat, c'est vrai qu'ils sont parfaits quasiment du début à la fin. Ils continueront un petit peu cette série d'invincibilité lors de la saison suivante, donc 2004-2005, puisqu'ils iront jusqu'à 49 matchs de suite sans défaite, à domicile comme à l'extérieur, en première ligue, et ils iront perdre ensuite à Old Trafford sur un penalty très très litigieux. Accordé à Wayne Rooney et à Old Trafford, ils perdront donc 2-0 ce 50e match, donc sur cette série incroyable d'invincibilité de 49 rencontres.
Alors, j'ai un message de Julien sur Direct Studio qui me dit le maillot de cette année-là, réputé pour être le maillot des invincibles, a une cote extraordinaire sur le marché des maillots de foot, me dit-il. Je sais pas si tu vois.
Ouais, je suis fort tard d'Arsenal. Donc, le rouge.
Je veux bien le croire. Ouais.
C'est ça, le rouge à l'extérieur et le jaune. Le rouge à domicile, le jaune à l'extérieur.
Jaune et bleu.
J'ai un maillot de Robert Pires. Non, aucun des deux d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai réussi à en récupérer un de Robert Pires et j'ai aussi récupéré, figurez-vous, quand vous savez quand le trophée vous est amené sur la pelouse, il y a toutes les bouteilles de champagne pour arroser tout le monde et j'ai réussi à récupérer ce jour-là. Je l'ai fait un petit peu à l'envers à tout le monde. J'ai récupéré une petite bouteille 2003-2004 Barclays Premiership, voilà, qui reste
dans ton musée,
qui restera mon trophée à moi. Mais pour dire à quel point cette saison elle est exceptionnelle aussi et que tout le monde l'a reconnu ainsi, la Première Ligue a fait un trophée spécial tout en or pour Arsenal pour cette saison-là, et ce trophée d'ailleurs a été donné à Arsène Wenger le jour de sa retraite, ou le jour où il est parti, donc en mai 2008. Le club lui a offert cette coupe-là,
parce que c'est unique,
parce que personne d'autre dans l'histoire.
Ah oui, j'ai posé la question. Donc en Première Ligue, c'était jamais arrivé, enfin, ou dans le championnat anglais en
Preston,
général,
que... voilà. Alors Preston North End en 1888-1889, ils font aussi une saison invaincue. C'est une saison à 22 matchs à l'époque.
Donc ça a déjà été fait.
Football, comme
saison à 22 aujourd'hui. Matchs.
Ça a déjà été fait. C'est une saison à 22 matchs, c'est pas une saison à 38 matchs, mais Preston l'avait fait effectivement. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît ainsi.
Quels sont les grands clubs européens qui l'ont fait? Est-ce que, enfin, je sais pas, t'as un piège,
alors, l'Ajax,
hein, mais...
bien sûr, la grande équipe de l'Ajax. Non, mais l'Ajax de Van Gaal qui gagne la Ligue des Champions en 95, fait 52 matchs de suite, je crois, de Eredivisie à l'époque, donc sans défaite, dont une saison entière.
Alors, Simonet nous raconte, je sais pas si t'allais le dire, que Pérouse l'a fait une année en 79, et le pire, c'est qu'ils sont pas champions.
Sans perdre un match.
Sans
c'est
perdre
ça,
un match.
Exactement. Ils font beaucoup de matchs nuls, c'est ça, non?
Il y a beaucoup de matchs nuls. Beaucoup. Mais Simonet va nous raconter cette histoire un de ces soirs.
Remarque, un peu comme City avec Liverpool.
Mais il y a Milan, bien sûr, hein, le grand.
Enfin, je dis pas qu'ils n'ont pas perdu un match, mais quand tu fais une saison comme ça et que t'es pas champion.
Oui, voilà, quand tu tombes.
C'est ça.
C'est horrible.
Mais donc le grand Milan de Capello l'a fait, je crois que Benfica l'a fait aussi. Il y a quand même quelques clubs européens dans d'autres championnats.
Sans doute que le Celtic ou Glasgow Rangers ont dû le faire une année ou deux. On peut le supposer.
Il faudrait que je regarde. Je sais pas pour le Celtic et
bon, pas l'année où était Jérôme mais au Rangers, mais
pourquoi tu dis ça?
Non, ou Charbot.
Pas fait un vaincu.
Mais
vous êtes champion l'année où vous
êtes? Ouais, on est champion, ouais. Bien sûr, mais déjà, on n'a pas perdu contre les Celtics, ça c'est sûr.
Et toi, Glasgow, ouais.
On n'a pas perdu contre les Celtics, mais peut-être, non, on a dû se faire accrocher. C'est le terrain.
À Motherwell.
Aux Iberians.
Motherwell, c'est mon premier match, Motherwell.
Ah ouais. Aberdeen.
J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce terrain? Motherwell, ouais.
Bah écoute, voilà une histoire avec en plus plein de Français dedans. Hein. C'était l'époque où tout le monde s'excitait, s'enflammait pour Arsenal, qui était un peu le club en dehors de France, qui était un peu le club préféré des Français.
De France qui le supportait.
C'était la hype Arsenal, quoi.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, même, je me souviens que l'équipe en fait des tonnes sur le club parce qu'il y a des joueurs français de l'équipe de France dedans. Et oui, c'est le club hype à 100%.
Pierre Ménès venait souvent aussi.
C'est comme ça qu'il a fait un réseau d'amitié important.
Tout à fait, mais c'est vrai que le football pratiqué était exceptionnel, sincèrement,
c'est vrai.
À part quelques matchs bien sûr, mais le niveau footballistique de cette équipe était hallucinant et c'est vrai que c'était beau à voir, et je pense qu'aujourd'hui encore tout le monde fait un petit peu les débats en Angleterre sur est-ce que c'est la plus belle, la plus grande équipe de l'histoire du football anglais, ou en tout cas de l'histoire de la Première Ligue. Ça se débat avec les Liverpool actuels et les Manchester City de Guardiola, etc., ou le triplé de United avec Ferguson.
Olivier me dit le Celtic l'a fait avec en plus Kolo Touré qui était au Celtic. Donc ça veut dire que Kolo Touré l'a fait deux fois.
Ah, c'est possible, il l'a fait deux fois.
Et Hüseyin me signale que Besiktas l'a fait dans les années 80 aussi, en Turquie. Voilà. Donc voilà, c'est...
Mais ce qui était, ce
et
qui
Porto avec Villas-Boas, me dit que... Carlos. Voilà. Genre là, il n'y en a pas
c'est
vérifié.
Non, c'est possible. Ouais, Porto,
confiance.
Non, mais
oui,
c'est... Mais les joueurs, par exemple, te racontent aujourd'hui encore que dans le tunnel, déjà, ils savaient qu'ils allaient pas perdre. Ils savaient, il y avait cette emprise psychologique aussi sur l'adversaire, outre le fait que tu jouais contre des Vieira, des Henry, des Pires, des Campbell, etc. Mais il y avait aussi cette emprise psychologique sur l'adversaire dès le tunnel. Dans le regard des joueurs adverses, ils savaient que, aujourd'hui, ils allaient pas perdre. Ils savaient que parfois ce serait dur. Bien sûr, il y a des matchs qui étaient difficiles à l'extérieur à Liverpool, à l'extérieur à Manchester United. On a parlé de ça, mais ils savaient aussi qu'ils avaient une telle emprise psychologique. Et puis tout le monde savait qu'ils avaient pas perdu depuis 20 matchs, 25 matchs, 30 matchs, 35 matchs. Et qu'ils entraient dans ces matchs-là dans le tunnel, ils savaient qu'ils allaient pas perdre.
Mais moi, t'as raison de mettre ça en avant, parce que en fait, quand tu fais des séries, alors moi, malheureusement, ça m'est pas arrivé. J'aurais aimé rester invaincu toute une année, mais les années où je suis à Monaco, où on n'est pas loin d'être champion à chaque fois, on se bat avec Lyon. C'est vrai qu'on, ça nous arrivait de faire des séries de 15 matchs, 20 matchs sans défaite, tu vois, où là, tu sens qu'il y a une force quand tu rentres sur le terrain. C'est terrible, hein, mais tu sais que tu vas, t'as un certain niveau et tu vas y être à ce niveau-là. Et puis si t'es dans un bon jour, bah tu vas être encore au-dessus. Et pour un match juste de championnat, je parle pas de Coupe d'Europe, ça suffit en fait pour continuer la dynamique. Et en effet, le petit relâchement peut être fatal. Et c'est pour ça que Julien, il a raison de mettre ça en avant, de rester toute une année dans un championnat majeur comme la Première Ligue. Franchement, c'est une performance énorme.
Après, je crois que cette pression positive qui te donne plein de force quand t'es, ouais, quand t'es invaincu comme ça, ça tient tout un moment. Et je pense que les derniers matchs, par contre,
c'est là que c'est compliqué.
Ils doivent être très très durs, parce que tu te dis putain,
rappelez-vous, rappelez-vous de Nantes.
T'as déjà atteint les objectifs.
Non, t'avais failli le faire en France. Rappelez-vous, ouais, une année, et tout le monde disait ils vont tomber.
93-94.
Et qui c'est qui les a fait tomber?
Strasbourg.
Franck Leboeuf.
Bim.
Franck Leboeuf, bim, tête au premier poteau.
C'est pas vrai, c'est Strasbourg.
À la Méno.
Mais à la à quoi, à 3 journées de la fin?
Non, un peu plus, je crois.
C'est 2-0, non?
2-0.
Non, ils ont fait 32 matchs. Ils font 32 matchs d'affilée sans défaite.
Ouais. Voilà, non, mais t'imagines. 5 journées de la fin.
C'est terrible. Encore que tu perdes contre un gros, tu perds contre Strasbourg, quoi. Tu dis.
Attends, Réo, à l'époque, on était fort. Tête de Leboeuf, vrai poteau, et but de Mostovoy. Non, Mostovoy, quel joueur?
Ah, Mostovoy, très bon joueur.
Bah oui,
plus à Caen, il a brillé qu'à Strasbourg.
Mais juste.
Allez, pour conclure,
juste pour finir sur l'emprise psychologique. Ouais, juste pour finir, parce que cette histoire, elle est belle, mais je me rappelle d'un défenseur anglais qui disait que pendant cette saison-là, c'est vrai que lui, il est dans le tunnel, il regardait Thierry Henry et il se disait, la seule chose qu'il disait dans sa tête, c'était, mais combien de buts il va me marquer aujourd'hui? Ils avaient peur d'Henry, ils avaient peur de Vieira au milieu, ils avaient peur de Campbell derrière. Oui. Et c'est vrai que c'est ce que disait Jérôme, quand tu arrives dans cet état d'esprit-là, déjà, avant que le match ait même commencé, tu perds déjà 1-0, c'est sûr, quoi. Quand
tu sais que ça va être, l'équipe d'en face,
merci Julien, joue,
ça va être très difficile. Tu prends un but, t'es mort.
Merci Julien.
Merci à vous, les gars.